pour nous, c'est pas une victoire. C'est Niken a vraiment étape. Si vraiment les choses publiques sont bien gérées, les problèmes au niveau de la douane ainsi qu'au niveau des impôts sont réglés, les diplômes sont audités, l'assainissement des sols aussi c'est déjà fait.
Mais donc, c'est évidemment une petite victoire quand même pour les fonctionnaires. Je m'excuse de vous interrompre. C'est une petite victoire évidemment pour les fonctionnaires, indubitablement une très bonne chose pour vous. Mais le ministre tchadien des Finances est catégorique. Le gouvernement doit faire des économies et ne pas perdre le programme avec le FMI. N'était-il vraiment pas possible pour vous, les fonctionnaires, de faire un peu de sacrifice pour épargner les pauvres, les plus démunis?
Moi, je n'ai pas fini. On ne peut pas vraiment dire que vraiment c'est une victoire, puisque maintenant les indemnités de tous les fonctionnaires de l'État sont coupées à moitié. Beaucoup de problèmes ne sont pas réglés. Tous les problèmes que j'ai cités, si c'était réglé,
mais le Premier ministre a dit qu'il n'ira pas de l'avant, le gouvernement n'irait pas de l'avant avec cet abattement annoncé. Donc, mais la question que je vous pose, évidemment, il y a cette situation, il y a une crise en ce moment au Tchad. Donc, vous, les fonctionnaires, est-ce que vraiment c'était pas possible de faire un peu de sacrifice?
Le problème, c'est quoi? Nous avons fait des propositions au gouvernement.
Oui.
Les propositions que nous avons faites au gouvernement, si le gouvernement prend ça en compte, il ne devra même pas présenter vraiment son projet d'abattement.
D'accord.
Et si vous me permettez, vraiment, j'ai fait un peu l'historique.
Alors, de manière précise et concise, allez-y, très rapidement. Allez, je vous donne quelques petites secondes.
Vous savez, après la crise financière, pour juguler cette crise, le gouvernement a pris...
Voilà, justement, mais dites-nous en deux mots, ce que vous voulez.
Voilà. Mais ce que nous voulons, nous ne voulons pas parler vraiment de ce qu'on appelle abattement de salaire. Il y a d'autres sources qui viennent compter vraiment combler cette vie.
Ouais.
Donc, pour le gouvernement, nous avons dit, nous l'avons montré là où vraiment il faut faire les recettes. Si on est arrivé, si aujourd'hui, à cette crise, ce n'est pas la faute du travailleur, c'est la faute du gouvernement à part sans notre mal-gouvernance qui nous a amené vraiment à cet stade.
Non, mais évidemment, nous voulons que les travailleurs soient bien rémunérés. Mais je vais m'adresser à votre concitoyen Aristide Mabani. Pourquoi le Tchad est-il confronté à une telle crise économique depuis ces trois dernières années, d'après vous? Le gouvernement d'Idriss Déby Itno peut-il tout mettre sur le dos de la chute du cours du pétrole?
Merci, M. Jacques Aristide. Il faut souligner que la crise que nous vivons actuellement, en fait, même si ça s'est éclaté fin 2014, il faut noter que, en fait, depuis l'historique même, en fait, du projet pétrole, si vous vous rappelez, personne n'était prêt à s'engager dans le projet pétrole. Il a fallu la caution de la Banque mondiale qui s'est engagée, en fait, qui s'est portée garante pour que les investisseurs privés viennent au Tchad. Et donc, enfin, on avait conditionné l'exploitation du pétrole par un certain nombre d'engagements, donc la fameuse loi 001 dont les Tchadiens s'en souviennent. Et donc, ce qui s'est passé à un certain moment, tous les investissements qui ont été réalisés, les investissements publics bien sûr, ne se sont pas traduits en fait dans le panier de la ménagère. À ce moment, qu'est-ce que les Tchadiens en fait se sont dit, et particulièrement les fonctionnaires, comme tous les investissements qui ont été faits ne se traduisent pas par l'amélioration des conditions de vie, nous on veut l'augmentation des salaires. Donc, en fait, pour ceux qui suivent l'actualité au Tchad, à un certain moment, enfin, le gouvernement en fait, s'est mis à augmenter les salaires avec les revendications sociales, bien sûr. Et en fait, pour vous rappeler en fait, un chiffre, de 2013 à 2006, la masse, enfin, de 2003, autant pour moi, en 2016, la masse salariale s'est augmentée de 450%. Donc on est passé d'environ 71 milliards par an à près de 400 milliards par an. Donc, ces ressources-là représentent, enfin, la masse salariale représente environ 80% enfin, des ressources hors pétrole enfin, du pays.
D'accord.
Donc, vous imaginez, un seul instant, que lorsque le prix du baril du pétrole chute, effectivement, l'État tchadien, c'est-à-dire le gouvernement, ne peut que trouver des difficultés pour payer ses fonctionnaires.
Et donc,
nous ne mettons pas seulement l'accent sur le pétrole, il y a également la crise sécuritaire, effectivement, qui a affecté énormément le budget de l'État, parce que le Tchad, sans le pétrole, il y a également l'agriculture et l'élevage, et donc, du coup, avant la crise, on exportait, le Tchad exportait davantage de bétail, par exemple, vers le Nigeria et le Cameroun. Avec la crise, avec la fermeture de frontières, vous imaginez, c'est souvent qu'on n'arrive pas à exporter ces ressources-là, donc ça fait moins de ressources budgétaires, en fait, pour l'État.
Ouais.
Donc, cet ensemble fait qu'aujourd'hui, effectivement, l'État est dos au mur. Et donc, il faut trouver, n'est-ce pas, des solutions, il faut trouver des moyens pour faire des coupes budgétaires. Ou bien, si je vais être un peu technique, parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la dette. Donc, c'est-à-dire, comment mesure-t-on la dette quand vous prenez le taux d'endettement, c'est tout simplement le taux de la dette divisé par le PIB. Donc, la solution actuelle, soit effectivement, en fait, si on veut diminuer la dette, donc on diminue les dépenses de l'État. Donc, entre autres, les mesures d'abattement que en fait, le gouvernement avait proposées, soit on augmente le PIB, donc augmenter la richesse du pays. Or, c'est quelque chose qui ne se fait pas pour un an. Donc, actuellement, soit effectivement faire également un effort pour la mobilisation des ressources fiscales. Or, nous savons que le taux de pression fiscale est le plus bas, en fait, quand nous prenons même la zone.
Et pour permettre à notre audience de mieux comprendre la situation.
N'en est qu'à 9%. Ouais. Donc,
malheureusement, on ne pourra pas entrer dans tous les détails. Je m'excuse.
Maintenant,
ouais.
Qui doit subir cette baisse, c'est là où je crois que la discussion doit maintenant se poser.
Évidemment. Et pour permettre à notre audience de mieux comprendre, c'est quoi le salaire moyen d'une personne, d'un individu au Tchad?
Malheureusement, il y a tellement de hétérogénéité et là, c'est également la conséquence de tous les acquis sociaux en fait, qui ont été accordés lorsqu'il y avait l'embellie en fait, des prix du pétrole. Parce que enfin, il suffit que dans un secteur, parce que les syndicats soient forts, donc on accorde des acquis sociaux dans les secteurs, alors que dans d'autres secteurs, ce n'est pas le cas. Donc le salaire moyen au Tchad ne veut pas dire grand-chose parce que vous allez.
Vous n'avez pas les chiffres, c'est pas grave. On va passer à autre chose. J'aurais aimé parler de cette affaire Glencore. Permettez-moi de vous poser cette question. Malheureusement, comme je vous dis, il nous faudra être précis, concis. Je voudrais parler de cette crise, de cette affaire avec la multinationale Glencore. Dico en parlait tout à l'heure dans le reportage. Alors, ce deal avec Glencore que dénonce aujourd'hui le président Idriss Déby, est-ce bien lui et son entourage familial qu'il avait accepté en 2013, n'y a-t-il pas là un problème de mauvaise gestion et de présumée corruption qui se pose, Aristide Mabali, très rapidement?
Oui, effectivement, nous pouvons parler de la question de la gouvernance là, parce que effectivement, ouais. Glencore, ce n'est pas qu'en 2013 que le Glencore est rentré, enfin que la multinationale Glencore est entrée au Tchad, c'est depuis 2011. En 2013, c'est vrai qu'en 2012 déjà, c'était la multinationale là qui vendait en fait le gris que la FHT, c'est-à-dire la société tchadienne de hydrocarbures recevait, en fait, d'après le contrat de partage de production, qui fait que maintenant, en fait, que la société des hydrocarbures reçoit en fait le pétrole brut, enfin, au lieu que ça soit des redevances. Et donc c'est Glencore, n'est-ce pas, qui vend le pétrole brut tchadien. Or, effectivement, en 2014. Le gouvernement tchadien, à travers la SHT, s'est endetté environ 1,3 milliard de dollars auprès de Glencore pour racheter les parts de Chevron. Et ça a permis, or, avec effectivement, le contrat de partage de production, c'est toujours Glencore qui est en charge de vendre encore le but issu, n'est-ce pas, de 25%.
Et malheureusement, cela est en train de retarder le programme avec le FMI. Amadou Cissé, il y a évidemment toute cette question de mauvaise gestion et j'imagine que c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais dites-nous, dans un pays qui est l'un des plus pauvres du monde, est-il raisonnable d'imposer des mesures aussi drastiques telles que réclamé par les institutions de Bretton Woods. Évidemment, je veux parler du FMI et de la Banque mondiale. Est-ce que finalement, ce n'est pas les plus démunis, les plus pauvres qui vont payer les pots cassés d'abord et avant tout?
Bon, écoutez, c'est une question qui est justifiée d'un certain point de vue.
Ouais.
Mais d'un autre point de vue, le méchant gendarme, il est toujours mal vu. Cependant, le méchant gendarme, il est là pour une raison bien déterminée. Il y a le dicton populaire qui dit qu'il y a trois choses sûres au monde: Dieu, la mort et les taxes. Alors je vais l'adapter à notre discussion en disant qu'il y a Dieu, la mort et la contrainte budgétaire. Pourquoi la contrainte budgétaire? Vous voyez, des pays pauvres comme le Tchad, comme d'autres pays, ont des produits qui assurent, disons, leur fonctionnement. Dans ce cas-là, c'est le pétrole. Quand les cours du pétrole chutent, le train de vie que l'État a eu jusqu'ici ne peut plus se maintenir. Et c'est là, c'est cette chute du cours du pétrole qui met maintenant à nu les choix politiques qui avaient été faits, les choix publics. Et c'est là que la question de fond de cette problématique, c'est, je m'excuse du gros mot, la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire les mauvais choix économiques. Dès le début, quand les cours du pétrole étaient bons, c'est là que le pactole devait être utilisé pour être investi à bon escient dans l'économie, pour la rendre plus productive, pour la rendre plus profitable au plus grand nombre dans le pays. Malheureusement, les choix des politiques suivis typiquement dans les pays pauvres, disons, obéissent à des critères, pas d'efficience, mais à des critères politiques de redistribution, et généralement au profit des élites qui sont là. C'est pour ça, en l'occurrence, nous voyons que le Tchad a essentiellement un budget de salaire, et ce budget de salaire, ce que les interlocuteurs, vos invités, n'avaient pas dit au début, c'est que au Tchad, nous avons cette situation un peu particulière où les indemnités sont très importantes dans les salaires. Alors c'est pour ça que le gouvernement a d'abord coupé les indemnités, mais il s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant et il fallait couper dans les salaires. Bon, là, avec la grogne sociale, il a reculé. Mais la plus grande image et les grandes perspectives, c'est quoi? C'est que les choix publics faits en période d'abondance doivent être conformes au long terme. Quand ils ne sont pas conformes au long terme, on est passible d'avoir des situations de crise où il faut arbitrer entre l'utile, le nécessaire et l'urgent.
Évidemment, toute une responsabilité. Absolument. Et c'est une responsabilité du gouvernement. Qu'en pensent les habitants de N'Djamena? VOA Afrique a tendu son micro à quelques-uns d'entre eux.
Moi, personnellement, je m'insurge contre cette mesure antisociale. Ce n'est pas aux fonctionnaires, ce n'est pas aux populations de payer le pot cassé ou bien de subir les conséquences des malgouvernances, des détournements des données publiques de nos autorités.
Je préfère que le gouvernement rende compte des 16 mesures qui viennent découler et d'essayer de discuter avec toutes les couches sociales avant de prendre de telles décisions, parce que nous ne pouvons pas payer la malgouvernance des débits.
L'État est aujourd'hui, n'est-ce pas, submergé par des gens qui sont parfois sans profil, et c'est des gens qui ne sont pas, n'est-ce pas, qui ne contribuent en rien, mais ils perçoivent le salaire. Donc pour moi, le sali, c'est pas dans le rabattement des salaires, mais dans le contrôle que l'État doit engendrer pour débusquer ceux-là qui reçoivent, n'est-ce pas, des sommes de façon induite, n'est-ce pas, et qui s'enrichissent sur le dos de l'État.
Nous ne sommes pas d'accord que le gouvernement ait pitié de sa population. Il n'y a pas de population sans gouvernement, il n'y a pas de gouvernement sans population. C'est un pays pétrolier, pourquoi on doit s'ouvrir comme ça là? Nous devons s'ouvrir jusqu'à la fin de notre vie. Est-ce que c'est normal?
Le développement, c'est l'être humain, c'est l'homme. Il faut que l'homme, n'est-ce pas, soit capable de se nourrir, qu'il envoie son enfant à l'école, qu'il mange à sa faim. C'est ça les éléments de développement. Donc un gouvernement qui passe son temps à prendre des mesures antisociales, je me demande quelle est la logique derrière tout ça.
Et voilà, micro-trottoir à réaliser dans les rues de la capitale tchadienne. Commentaire également sur notre page Facebook. Adoum Idriss Gaddafi, Abomey Kalavi, Bénin. C'est-il acceptable? Comment peut-on augmenter les prix? Pourtant, le prix du baril de pétrole est ascendant. En tant que chef d'État, comment peut-on imaginer que les hôpitaux et l'éducation soient en grève? Quelle honte, quelle irresponsabilité. Et Archiduc Théodore de N'Djamena, la crise financière au Tchad est une situation situation fabriquée. Mieux vaut limiter les dépenses des voyages présidentiels privés, les dépenses en armes, mettre en place un système contre les vols, la corruption, les dépenses inéligibles et le détournement. Et voilà, n'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient après cette courte pause.
Bien précieux que rien ne peut remplacer.
VOAfrique vous propose un rendez-vous hebdomadaire consacré à cet aspect important de votre vie.
Votre santé, votre avenir est un programme interactif qui vous offre des conseils pratiques pour votre bien-être.
Nous vous donnons l'occasion de poser des questions sur l'actualité santé et d'avoir les réponses de nos experts.
Votre santé, votre avenir, un rendez-vous à ne pas manquer sur les chaînes partenaires de la Voix de l'Amérique.
Le temps passe, Jacques Aristide de retour avec vous. Le problème économique tchadien nous tend la perche afin de voir si les pays d'Afrique subsaharienne se dirigent vers une nouvelle crise de la dette, un angle que nous allons aborder avec nos invités de la capitale tchadienne, Dr Aristide Mabali, directeur du think tank Crozet et rédacteur en chef de Tchad Echo, en ligne également de N'Djamena, Mahamad Nasraddin Moussa, secrétaire général de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad, et à mes côtés à Washington, l'économiste Amadou Cissé. Et Amadou, je voudrais vous demander, se dirige-t-on vers un retour des crises de la dette en Afrique subsaharienne?
Malheureusement, oui, il y a des signes qui indiquent qu'il y a une nouvelle crise de la dette, et cette fois-ci, surtout la dette commerciale. L'exemple typique de Glencore au Tchad, c'est que à la fin des années 80, avec les institutions de Bretton Woods, les pays en difficulté en Afrique avaient pu bénéficier d'un programme qu'on appelle le PPTE, le programme des pays très endettés, qui a épongé la plupart des pays, la plupart des dettes. Donc pour rendre les pays, disons, la dette à un niveau soutenable permettant la relance de l'économie. Ceci a tellement bien marché que, et puis aussi les cours des matières premières se sont tellement ont été favorables dans les années 90, 2000 et 2010 que l'espace pour l'endettement s'est amélioré et les institutions, tout le monde a vu la nécessité d'un plus grand endettement pour des investissements de croissance. Oui. Alors, il se trouve que ces nouvelles dettes contractées, les dettes commerciales, n'ont pas toujours été dans une logique, dans une utilisation économique stricto sensu. Bon, parce qu'à cause des faiblesses en Afrique, vous voyez, le contrôle public sur les politiques n'est pas tellement effectif. Par exemple, les assemblées nationales ne contrôlent pas tellement la justesse des politiques économiques prises par les gouvernements. Et aussi le forum public, le forum civique, les syndicats, les organisations syndicales et puis les autres, les organisations civiques ne jouent pas tellement leur rôle, disons, de contrôle de l'action du gouvernement. Et puis, pour être juste, ces entités-là existent, mais il y a une très grande opacité et puis le faible niveau même de l'éducation dans ces pays. Disons, empêche un développement très efficace des politiques publiques. Oui. Donc, il s'en est suivi que cet endettement, au lieu d'être mis au service du développement économique, disons, a pu financer des activités qui n'avaient pas, disons, un rendement très important pour l'économie à long terme. Oui. Mais ça a essentiellement bénéficié à des couches urbaines ou bien à des activités de l'élite.
Alors peut-être pour illustrer ce que vous venez de dire, nous voyons qu'il y a des États comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Rwanda et le Kenya qui ont d'ores et déjà adopté des programmes FMI. Mais il y a une question que je voudrais vous poser. On a vu des programmes comme cela par le passé. Mais y a-t-il des pays, y a-t-il des exemples concrets où ces programmes ont vraiment aidé ces pays parce que finalement, il y a des gens qui vont vous dire, voilà, oui, on adopte ces programmes du FMI et de la Banque mondiale, donc on va aider ces pays davantage à empirer leur endettement, etc. Donc est-ce que finalement,
cela ne
va pas envenimer la situation?
L'endettement en lui-même n'envenime pas la situation. L'endettement quand il est bien ciblé et bien investi. Par exemple, l'endettement doit être investi dans les dépenses structurantes telles que l'éducation, telles que la santé, telles que les infrastructures routières, telles que l'énergie. Voilà, quand l'endettement est bien ciblé sur ce secteur-là et qu'il est bien contrôlé, il n'y a pas de problème.
Les gens peuvent vous parler du cas du Mali, où il y a eu des conséquences dramatiques.
Absolument.
Ça peut-être même certains vous diraient que, voilà, par exemple, les écoles publiques...
Le cas le plus commun. Et ça, c'est le cas le plus commun. Dans tous ces pays-là, c'est que l'endettement, en réalité, a mal été investi. Et en fait, l'État lui-même a failli. Et les fonctions sociales régaliennes de l'État n'ont pas été prises en compte. Et finalement, c'est l'État qui a failli. Et puis, il y a des instances informelles, parfois même des organisations religieuses qui ont... qui ont pris la place laissée vacante par l'État.
Et voilà.
Par exemple, au Mali, le Mali que vous avez évoqué,
c'est
l'exemple typique de faillite du secteur public. Absolument. Où vous avez des organisations religieuses qui désormais animent les médersas, font les petits prêts, disons, d'assistance sociale, ainsi de suite. Et puis, et finalement, on a abouti à cette situation où on a même, Dieu nous en garde, les djihadistes, vous voyez, où mène la mauvaise gouvernance.
Comme quoi, cela peut avoir des conséquences vraiment dramatiques. Le temps passe trop vite. Alors, Aristide Mabali, nous l'avons vu très souvent, le FMI et la Banque mondiale ont bon dos. Mais y a-t-il d'autres options pour ces pays africains qui veulent sortir de la crise économique et du coup éviter les conflits sociaux, par exemple? En deux mots, malheureusement. Allez-y.
Effectivement, c'est le vieux débat qui existe par rapport à la question de la gestion de la dette par les institutions de Bretton Woods. Généralement, on préconise qu'il faut diminuer les dépenses publiques, mais moi je pense que chaque cas est différent, chaque cas est spécifique et c'est ce qu'il faut vraiment prendre en compte. Vous prenez un pays comme le Tchad, par exemple, où la masse salariale est une composante importante du PIB. Lorsque vous dites que non, il faut réduire le poids de la dette et vous sabrez dans le salaire, c'est-à-dire que vous diminuez systématiquement en fait le PIB. Et donc les efforts, c'est-à-dire la conditionnalité de l'aide, par exemple, de ces institutions-là devraient être orientés plutôt vers l'amélioration de la qualité de la gouvernance et non dire qu'il faut diminuer les dépenses. Par exemple, les dépenses sociales, on sait que ce sont les dépenses qui vont directement en fait vers les ménages. Or, là où il y a problème, effectivement, ce sont les dépenses d'investissement. Lorsqu'on construit des écoles, lorsqu'on construit des hôpitaux, on sait que ce sont des secteurs qui ont de fortes rentes. Et donc, si les efforts, n'est-ce pas, des institutions de Bretton Woods devaient être faits, c'est plutôt dans ce secteur-là et non dans la gestion vraiment des dépenses sociales, où on sait que, effectivement, ce sont les fonctionnaires, ce sont les citoyens qui sont les bénéficiaires.
Aristide Mabali, malheureusement, c'est ici qu'on va mettre un point final à cette discussion. Merci à nos invités, les économistes Amadou Cissé et Aristide Mabali et le syndicaliste Moussa Mahamad Nasraddine. Avant de clore cette édition, un mot sur l'Iran, secoué récemment par un mouvement de protestation. Greta Van Susteren, collaboratrice de la VOA, a interviewé le vice-président américain Mike Pence sur la question. Un extrait.
Well, it's important to remember first and foremost that Iran is the leading state sponsor of terrorists in the world.
Not only do they oppress their own people, deny human rights,
but they also export terrorism across the region
and
continue to be an enormously
dangerous,
destabilizing force. And so to see the people of Iran rising up to demand change in their country should hearten every freedom-loving American and people who cherish freedom around the world. And I have to tell you that the contrast today between the deafening silence from an American president in 2009 during the Green Revolution in Iran.
Et voilà, le vice-président américain Mike Pence à la Maison-Blanche, mercredi. Voilà, point final à ce Washington Forum. Merci à toute l'équipe, Salwa Jafari, Lionel Gaïmache et Romain Dorsil. Et merci à vous, chers amis de La Voix de l'Amérique. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.